RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
La COP27 est entrée dans sa deuxième semaine et nous vous proposons ce matin exceptionnellement 2 heures d'émission spéciale autour des grands enjeux de cette réunion des pays du monde sur le climat, avec une première heure consacrée à la justice climatique et une deuxième partie dédiée au rôle des États face au réchauffement climatique. La justice climatique, parlons-en. Tiens, si nous sommes tous responsables du dérèglement climatique, certains sont plus responsables que d'autres, que ce soit à l'échelle des individus et à l'échelle des pays. Et en l'occurrence, les plus responsables sont les plus riches et ce sont donc eux aussi qui doivent consentir les plus grands efforts pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nos invités vont nous éclairer sur cette question. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Dites-nous comment vous comprenez cette notion de justice climatique et d'après vous, comment doit-elle se traduire dans les décisions prises à la COP27? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Bonjour Anne Kerléo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes la rédactrice en chef écologie et ce matin on va se supporter pendant 2 heures, mais avec nos invités évidemment pour parler de la COP27.
Exactement, on va parler dans cette première partie de justice climatique. Vous l'avez dit, c'est un concept qui renvoie à la responsabilité commune mais différenciée. On va essayer de rentrer dans ces notions-là de justice climatique et de responsabilité commune et différenciée et de voir qu'est-ce que ça implique en termes de décision lors de cette COP27, Melchior.
Avec nos 2 invités qui nous accompagnent.
Voilà, je suis un peu perturbée parce qu'on devait en avoir 3 et oui. Puis il y en a une qui, au dernier moment, n'a plus de voix ce matin. Alors évidemment, on lui pardonne. Hein, parfois, ce sont des choses qui arrivent. Alors je salue, on est ravis d'accueillir les 2 qui sont avec nous ce matin. Je salue d'abord Martin Kopp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes théologien écologique, chercheur associé en théologie protestante à l'Université de Strasbourg, président de la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France, et vous avez co-dirigé la publication toute récente d'un livre aux éditions Biblio, S'engager pour la justice climatique, en plein dans notre sujet de ce matin donc. Et puis avec nous aussi Guillaume Compin, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes chargé de campagne climat et énergie chez Oxfam France. Alors Oxfam, c'est une organisation internationale de développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté. Oxfam travaille dans plus de 90 pays pour trouver des solutions durables pour mettre fin aux injustices qui engendrent la pauvreté. Et Oxfam soutient les populations des pays les plus vulnérables impactées par les conséquences des changements climatiques, alors qu'elles en sont, on va le voir tout au long de cette émission, les moins responsables. Et vous faites un travail de plaidoyer donc pour la justice climatique.
Merci à tous les deux de nous accompagner dans cette émission. On va commencer, pour ne pas changer nos bonnes habitudes, par la chronique Tout est lié. Et on accueille ce matin Féris Barkat.
Bonjour Féris.
Bonjour.
Alors pour commencer, très bien.
Ça va.
Et vous?
Ça va, ça va.
Pour commencer votre chronique ce matin, vous nous posez une question rhétorique.
Exactement. On commence avec cette question. Est-ce que la COP, c'est un rassemblement de chefs d'État pour négocier les efforts à faire face au réchauffement climatique, option A, ou un rassemblement de lobbyistes du pétrole et du gaz, option B? C'était en effet un piège, car c'est les deux. Et si j'évoque les lobbyistes des énergies, c'est pour rappeler une analyse de Global Witness, qui n'est pas parfaite, mais qui en dénombre 636 à la COP27. De mieux en mieux. 636 lobbyistes. C'est 25% de plus que l'année dernière. 636, c'est plus que n'importe quelle délégation, à l'exception des Émirats arabes unis. À noter que depuis des années, les experts recommandent d'arrêter tout nouveau projet d'exploitation des énergies fossiles pour qu'on respecte nos engagements climatiques. On le sait tous. Pourtant, comme l'indique Georges Monbiot pour Le Guardian, ça fait 26 COP que dans les déclarations, on n'a jamais lu une seule fois une mention qui indiquerait la fin des exploitations fossiles. Le secteur lui-même des combustibles fossiles dans les accords finaux est rarement mentionné. 6 fois seulement. Je ne sais pas si on réalise qu'on n'ose même pas nommer la cause du réchauffement climatique à un sommet sur le climat. Donc si vous voulez voir un lien avec les lobbies, ce serait compréhensible. Car pour éviter la malaria, évitez d'inviter autant de moustiques.
Alors, on entend souvent dire que ce n'est pas à la France de faire des efforts parce que elle représente moins d'1% des émissions de gaz à effet de serre.
Alors oui, quel argument fascinant. On parle souvent de l'inaction climatique, mais on ne parle pas assez de l'inaction intellectuelle. La France, moins de 1% des émissions. Alors oui, comme la plupart des pays dans le monde, et en fait non, pas 1%. Si on comptabilise les émissions importées, donc ce qui est produit à l'étranger, pour nous, on est à 1,17%. Sans compter les émissions historiques. Les gaz à effet de serre, c'est cumulatif. Ça ne part pas en vacances à la fin de l'année. Donc on arrive à 2,3%, d'après Carbon Brief. Et surtout, c'est quoi cette histoire de comparer des pays avec des démographies différentes? Il faut ramener les émissions à la population par personne. Un Français, en moyenne, c'est environ 10 tonnes de CO2 par an. En moyenne, un Européen, c'est 6,3 tonnes. Un Chinois, 4,5 tonnes. Un Indien, c'est 1,3 tonnes. Un Africain, c'est 0,6 tonnes. Donc ceux qui agitent cet argument sur tous les plateaux, eh bien, on se concentre, s'il vous plaît. Surtout que cet argument, dans le contexte d'une COP, c'est vraiment ne rien comprendre au fonctionnement. À la COP, les pays votent à l'unanimité et doivent donc se mettre d'accord sur des ambitions communes. Cet alignement fait qu'on a tout intérêt à être ambitieux si on veut que les autres pays le soient aussi. Et par la même occasion, ce serait bien de comprendre que réduire nos émissions, donc réduire la part d'énergie fossile, ça évite d'être trop dépendant à des énergies de plus en plus compliquées à chercher. Je vous renvoie au dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie et qui mettent donc en péril la souveraineté de la France. On part d'un monde avec 80% d'énergie fossile dans le mix énergétique mondial. Donc l'adaptation à un monde avec moins de fossiles, ça s'anticipe ou ça se subit. Alors anticipons tant qu'on a encore le luxe de le faire. Et pour finir avec tout ça, j'ai du mal à comprendre. Certains qui visiblement ne connaissent pas la honte arrivent à s'étonner, à s'offusquer que des activistes pour le climat soient révoltés. Toujours la même histoire, déplorer des conséquences en chérissant les causes. Il faudrait pas que ça devienne une habitude.
Merci beaucoup Féris Barkat. Et la semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de chronique puisque ce sera le Radiodon. Donc retour de Tout est lié le mardi 29 novembre avec Stécia Legrain. Et d'ici là, bien sûr, rendez-vous sur rcf.fr pour toutes les réécouter. Et ça nous donne encore une fois de la matière pour cette émission sur la COP27, Anne.
Oui, alors Féris nous fait partir d'un quelque chose de plus large que seulement la justice climatique. Mais il en est question avec notamment le comparatif entre les différents pays. Peut-être pour commencer et entrer dans le sujet, Guillaume Compin et Martin Kopp, une réaction sur cette chronique. Qu'est-ce qui a particulièrement accroché votre oreille là-dedans, Martin Kopp?
Oui, alors elle ouvre beaucoup des sujets qu'on va aborder en détail dans l'heure qui vient. Peut-être un mot qui m'a accroché à la fin, c'est le mot de révolte. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans les dernières années depuis la conclusion de l'accord de Paris, qui en soi était plutôt un bon texte, en connaissant le fait qu'effectivement il faille un consensus pour le signer. Donc le manque d'action, le manque d'ambition, le fait qu'on rate nos objectifs, que cette COP telle qu'elle est partie, en tout cas jugée par la première semaine, est mal partie. Il y a effectivement quelque chose peut-être de l'ordre d'une saine colère. Il y a une fois, en tout cas dans les évangiles, où Jésus se met aux colères face aux marchands du temple. Et on voit ces dernières semaines en France que l'action, en dehors des COP, puisqu'ici on est en fait dans un dialogue sur qu'est-ce qui se passe là-bas et qu'est-ce qui peut se passer ici, l'action va vers la désobéissance civile, même des scientifiques qui se collent à des sièges dans des voitures de luxe, etc. Bref. On a ici un enjeu de gestion de la colère, je colère juste pour partie, comment est-ce qu'elle s'exprime, comment est-ce qu'on la reçoit et comment est-ce qu'éventuellement on l'évite en avançant d'abord de manière adéquate au niveau des nations.
Guillaume Compin, vous, qu'est-ce qui dans cette chronique retient votre attention particulièrement ?
Beaucoup de choses, je trouve qu'elle est très éclairante. La première, c'est effectivement cette sorte de capture par les multinationales de beaucoup de d'espace de la COP. C'est pas nouveau, mais effectivement cette année, on a atteint un sommet, plus de 600 lobbyistes présents des énergies fossiles. Et puis au-delà de ça, ce chiffre, c'est plus que les 10 délégations des pays les plus vulnérables au changement climatique réunies. Donc on voit bien que les intérêts de nations qui sont en première ligne du changement climatique et de ses impacts dramatiques sont bien démunis, même en termes de représentation face à des grandes entreprises qui ont tout intérêt à ce que les choses restent telles qu'elles sont, ou en tout cas évoluent lentement. La deuxième chose, c'est effectivement cette responsabilité historique qui est complètement différenciée selon les pays. Votre chroniqueur le disait très bien, la France, effectivement, c'est presque 2,5% des émissions historiques de CO2, alors que des pays, par exemple en Afrique aujourd'hui, on estime que 4%, que l'Afrique a 4% émet 4% des gaz à effet de serre aujourd'hui, et d'un point de vue historique, c'est même encore moins. Donc on voit qu'il y a une différence fondamentale entre les responsabilités des différents États et même continents, et c'est pour cette raison, et je crois que c'est aussi un sujet que vous vouliez aborder dans cette émission, mais c'est vraiment la question de responsabilité commune mais différenciée, qui est un principe onusien qui veut que les pays les plus riches et industrialisés, qui ont largement bénéficié des bénéfices de la croissance basée sur les énergies fossiles, et qui du coup ont émis beaucoup de gaz à effet de serre historiquement, doivent non seulement réduire en priorité leurs émissions, mais aussi se montrer solidaires. Mais encore une fois, c'est même pas de la solidarité, c'est vraiment une question de partage juste de l'effort envers les pays en développement.
Justement, si on essaye de définir ce qu'est cette notion de justice climatique, Martin Kopp, elle est fondée vraiment sur cette notion de responsabilité commune mais différenciée?
Alors là, on a un petit enjeu de polysémie pour ce qui est de la justice climatique, parce qu'elle peut envoyer dans de nombreuses directions. Il y en a une, effectivement, qui renvoie aux responsabilités communes mais différenciées, qui est un principe qui relève déjà, qui a été défini en fait il y a très longtemps, à Rio en 1992, qui est le principe numéro 7 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a aussi un sens plus large et des lectures de la justice selon différentes dimensions. Bien sûr, il y a les responsabilités communes économiques, mais on peut aussi lire la question climatique sous le prisme de la justice de genre, en considérant que, eh bien, parmi les plus pauvres qui sont les plus impactés, 70% ce sont des femmes. Donc, en fait, c'est une question de rapport homme-femme, de justice de race, bien que le mot race en France, on le met toujours avec des guillemets, mais on a un vrai enjeu de justice entre les blancs et les personnes de couleur, puisqu'on a aussi le prisme entre les émetteurs et les premières victimes recouvre aussi la différence de couleur de peau majoritaire dans les différents pays. On peut faire aussi une lecture qui dépasse cette vision intergénérationnelle et faire une lecture intergénérationnelle. Évidemment, ce sont les générations passées et puis la génération présente qui a la conscience. Et ça, c'est tout un des enjeux qui est parfois discuté à la COP. À quel moment savait-on quel élément scientifique sur le climat? Donc, peut-on véritablement imputer une responsabilité morale à des acteurs qui ne savaient peut-être pas à un moment donné? Enfin bon, il y a tout ça. Mais effectivement, il y a toutes les générations devant nous, au moins une quarantaine, une cinquantaine, si on considère que l'impact à long terme des changements climatiques produits aujourd'hui se produira sur au moins 1000 ans, en tout cas plusieurs siècles, avec la montée du niveau de l'océan. Et puis pour terminer, il y a aussi une vision très restrictive qui comprend la notion de justice climatique dans un sens très judiciaire, puisqu'aujourd'hui nous avons de plus en plus des collectifs de citoyennes et de citoyens qui attaquent des États ou des territoires en justice. On estime, c'est un peu plus à ce jour, de 1500 procès en cours, alors la très grande majorité aux États-Unis, plus de 1200, mais ça fait quand même des centaines de procès un peu partout. Et la France, comme ça a été rappelé récemment, et Emmanuel Macron en a parlé lors de son fameux dialogue sur Twitter avec les citoyens, la France avait été condamné pour inaction climatique. Donc il y a tout un aspect judiciaire qui émerge et qui est à l'arrière-plan de beaucoup d'éléments aussi dans la COP. Donc on a une formule très large qui convoque des notions éthiques, enfin justice, comment est-ce qu'on la définit? Et on la définit parfois d'une manière un petit peu différente selon qu'on regarde ça en droit, en philosophie, dans tel ou tel courant ou même en théologie.
Guillaume Compin, après ce panorama un peu de ce que c'est que la justice climatique vue par Martin Kopp, est-ce que vous souhaitez ajouter des choses pour éclairer cette notion ?
Oui, effectivement, Martin Kopp l'a bien rappelé, cette notion de justice climatique, elle recouvre différents aspects et effectivement se traduit à la fois sur des questions internationales et puis des questions plus entre citoyens au sein même des pays. Du point de vue de la justice climatique internationale, on en a déjà parlé, il y a une responsabilité historique d'émissions qui est différenciée, il y a des moyens économiques, financiers aussi qui sont différenciés avec les pays souvent les plus impactés qui sont des pays en développement qui ont moins de ressources aussi pour faire face, d'abord pour s'adapter aux impacts du changement climatique et puis par la suite à faire face aux conséquences soit irréversibles, soit qu'on n'a pas pu éviter de ce changement climatique, ce qu'on appelle dans le langage des COP COP, les pertes et dommages. Et ces pays-là, on estime par exemple qu'en 2030, chaque année, c'est jusqu'à 600 milliards de dollars dont les pays en développement auraient besoin pour faire face juste aux pertes et dommages. Si on part de l'adaptation, les Nations Unies estiment qu'on serait sur un montant de l'ordre de 350 milliards de dollars par an, en 2030 également. Qu'on voit qu'on est presque sur un ordre de grandeur de 1000 milliards de dollars par an, pour les pays en développement uniquement, pour s'adapter et faire face aux pertes et dommages liés au changement climatique. Donc c'est des besoins colossaux, et c'est pour ça que les pays les plus riches, notamment européens, mais aussi les États-Unis, qui sont le principal émetteur historique de gaz à effet de serre, doivent s'engager pour aider à la fois techniquement, mais aussi financièrement, les pays en première ligne, qui sont très peu responsables historiquement du changement climatique et qui pourtant font face, voilà, comme je le disais, à des impacts terribles. On pense par exemple aux inondations au Pakistan, mais aussi au Nigeria plus récemment, et à cette sécheresse chronique dans la Corne de l'Afrique qui conduit des milliers de personnes à une situation de famine actuellement. Et même si cette sécheresse n'est pas uniquement liée au changement climatique, elle est quand même en grande partie liée aux évolutions du climat dans cette région du monde. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu de se montrer à la fois solidaire et responsable de la part des pays du Nord. Ils se sont engagés en 2009 à la COP à Copenhague.
Alors on va revenir, Guillaume Coppa, à ces notions-là d'adaptation et de pertes et dommages dans le détail avec les chiffres justement que vous vous apprêtiez à donner.
Vous êtes sur RCF, on parle de la COP 27 ce matin dans Je pense donc j'agis, qui a entamé sa deuxième semaine. On s'intéresse plus particulièrement dans cette première partie à la justice climatique. Comment comprenez-vous d'ailleurs cette notion de justice climatique, et d'après vous, comment doit-elle se traduire dans les décisions prises à la COP 27? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail également à direct@rcf.fr.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand et Anne Kerléau.
Et nos deux invités qui sont avec nous dans cette première partie, Martin Kopp et Guillaume Compin.
Oui, Guillaume Compin évoquait à l'instant, vous avez employé le terme de pays en développement en disant que c'était les plus impactés et ceux qui ont le moins de responsabilités. Du coup, je voudrais qu'on s'interroge autour de cette notion-là. C'est vrai que dans l'histoire récente, pour qualifier les pays les plus pauvres, on a pu parler à une époque de pays sous-développés, puis de pays en voie de développement ou en développement. Aujourd'hui, on parle aussi de pays du Sud, parce que c'est en majorité des États qui se situent dans l'hémisphère Sud. Mais si on reprend ces expressions-là de pays sous-développés, pays en voie de développement, ça laisse entendre qu'il y aurait un modèle de développement par lequel tous les pays devraient passer. Or, aujourd'hui, on sait que ce modèle de développement-là n'est pas bon pour le climat et pour l'écologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que là, il ne peut pas y avoir aussi en germe une forme d'injustice où on dirait à ces pays-là, ce modèle de développement-là que nous, on a connu, il vous est interdit. Quel est votre regard là-dessus, Guillaume Compin?
Effectivement, c'est une notion qui est compliquée, et c'est de bonne guerre que les pays dits en développement, hein, c'est évidemment des terminologies dont on peut discuter, questionnent l'injonction qui leur est faite de réaliser une transition énergétique, donc décarbonée, de manière extrêmement rapide, là où effectivement les pays riches ont bénéficié largement des énergies fossiles. Après, évidemment, donc ça c'est un sujet qui est effectivement complexe, parce que, par exemple, sur les 1,3 milliard d'Africains, 1,3 milliard et 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité en Afrique, sur 1,3 milliard. Donc, on est vraiment sur un enjeu d'accès à l'énergie, à l'électricité. Et d'ailleurs, de nombreux chefs d'État africains actuellement estiment que, par exemple, le gaz serait une énergie de transition dans leur accès à cette énergie abondante. Et on peut pas leur en vouloir d'une certaine manière, puisque la Commission européenne elle-même a estimé en juillet, dans un texte qui s'appelle la taxonomie, qui permet de flécher les investissements dits durables de transition, à intégrer le gaz comme cette énergie de transition qui pourrait bénéficier du coup de financement pour cette transition énergétique de l'Europe. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que s'engouffrer aujourd'hui dans ce que moi j'appellerais un piège des énergies fossiles, y compris pour des pays africains, c'est extrêmement dangereux, puisque l'Agence internationale de l'énergie dit clairement que pour atteindre une trajectoire à 1,5 degré de réchauffement à la fin du siècle, on ne peut pas se permettre d'avoir de nouveaux investissements dans les énergies fossiles. Or, les pays, par exemple, africains sont parmi les pays en première ligne, on l'a dit tout à l'heure. Et autre chose, c'est que ces exploitations d'hydrocarbures, ce sont des projets qui s'étalent sur des décennies, qui risquent de devenir obsolètes dans quelques années, puisque les réglementations, on l'espère en tout cas, vont devenir de plus en plus contraignantes. Et au-delà de ça, on est sur des modèles d'extraction d'énergie fossile qui sont très centralisés, souvent entre les mains de multinationales qui d'ailleurs, dans la majorité, par exemple en Afrique, sont étrangères, en tout cas au continent. Donc ce sont des multinationales notamment françaises. Total Energy, c'est le principal développeur d'hydrocarbures en Afrique actuellement. Et donc, on peut se questionner sur est-ce que les populations des pays en développement vont véritablement bénéficier de ces investissements dans les énergies fossiles, on peut en douter. Et au-delà de ça, les énergies renouvelables sont de moins en moins chères et sont même, si elles étaient autant subventionnées qu'elles le sont par exemple en Europe, dans des pays africains par exemple, seraient beaucoup moins chères à installer que des gros projets d'énergie fossile qui manquent d'ailleurs d'infrastructures.
Martin Kopp.
Oui, j'aimerais faire deux remarques. Une qui est plus dans la ligne technique et factuelle qui a été commencée, et l'autre qui est plus théologique à la limite, ou en tout cas philosophique et théologique pour ce qui est du christianisme. Donc la première, c'est que la question telle qu'elle est posée semble garder la différence entre pays dits développés et pays dits en voie de développement. Et c'était vrai à un moment donné dans les négociations climat, et le principe de responsabilité commune mais différenciée, c'était vraiment compris comme ça au départ. C'est-à-dire, en fait, c'est les pays développés qui doivent commencer. Or, aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on a un monde qui est multipolaire, où les catégories se sont fragmentées, et où, si vous regardez les émissions historiques, tout à l'heure, on a parlé des émissions purement CO2. Moi, il me semble que méthodologiquement, il est important d'intégrer la question de l'usage des terres et de la foresterie, qui compte pour un tiers du carbone émis dans l'atmosphère depuis le début de la révolution industrielle. Si vous regardez les chiffres à partir de là, le deuxième émetteur mondial, c'est la Chine, historique, depuis le début des... le premier, c'est les États-Unis, le troisième, c'est la Russie, le quatrième, c'est le Brésil, le cinquième, c'est l'Indonésie. Et l'Allemagne n'arrive qu'en sixième place, la France en douzième place. Et vous avez donc, dans le top 5, vous avez trois pays que nous mettrions spontanément dans en voie de développement. Donc aujourd'hui, on a un monde qui est beaucoup plus compliqué que ça, avec des émergents, avec des en voie de développement qui ont des catégories de population à traite haute en empreinte en carbone. Donc c'est beaucoup plus complexe et ça nous invite à réviser, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'accord au sein des COP sur la responsabilité et le partage des efforts et des coûts, parce qu'on a une image qui est difficile aujourd'hui. Et je prendrais même un pas en arrière vis-à-vis de ça, c'est-à-dire ça serait encore accepter le récit du développement. Car le mot développement, qui semble factuel et descriptif, relève en fait d'un récit sur le progrès, sur l'investissement de l'histoire, sur le sens de l'histoire, sur le fait qu'il y a un modèle de société qui est la norme, qui devrait s'imposer à tout le monde, avec un vocabulaire qu'on connaît, qui est celui du rattrapage, qu'il y a des pays qui doivent se développer pour arriver enfin au niveau des pays développés, et même pour les développer, le grand mensonge de ce récit-là, si on était développé, nous ne serions plus en train de chercher du développement et de la croissance. Or, que je sache et de ce que j'entends, nous sommes des pays en fait en développement comme les autres, puisque nous ne disons pas c'est bon, tout est ok, nous on s'arrête là où on en est parce qu'on est arrivé au statut que nous souhaitions.
Mais c'est quoi aujourd'hui l'alternative, la crise écologique, alors ce serait quoi le récit? Il y a des
récits
alternatifs.
Il faut bâtir des nouveaux récits. Il faut changer d'imaginaire, bâtir des nouveaux récits, s'éloigner à mon sens de l'idée qu'il y a un seul récit unique avec une seule formule unique qui va à tout le monde et qui s'impose à tout le monde. C'est aller vers le pluriel et être dans cette créativité que certains essayent. Alors par exemple dans le mouvement de la décroissance, en parlant de sobriété heureuse, de frugalité joyeuse, tout le débat qu'on a aujourd'hui autour de la sobriété, est-ce seulement une réponse temporaire à une problématique de crise énergétique, ou est-ce en fait un nouveau modèle à bâtir? Et je note que la grande déclaration œcuménique à l'occasion de la COP27, qui a été signée par les trois présidents chrétiens en France, de catholiques, protestants et orthodoxes, appelle à une véritable révolution de la sobriété en disant en fait, ça doit être une balise et une vision même de la transition. Donc pour moi, le mot développement, entre-temps, il est devenu toxique. Et je dirais que dans tous les cas, qu'on reste dans ce récit-là ou qu'on l'abandonne avec une créativité langagière et imaginaire, donc une nouvelle institution de nos imaginaires, imaginaire. On a un vrai enjeu qui est que les pays qui ont la plus grande responsabilité doivent bouger d'abord, ça c'est sûr. Et comme pour le moment ils ne le font pas, et ça c'est évident, ou en tout cas ils le font pas assez, il y a quand même des dynamiques en cours, eh bien on ne peut pas emmener les autres dans cette dynamique-là.
Mais Guillaume Compin, sur cette question-là de sortir du récit de la croissance, du développement, est-ce que justement les pays du Sud que vous connaissez par votre action ont des choses à proposer et ont une pierre particulière à apporter à l'édifice de créativité dont parlait Martin Kopp à l'instant?
Il y a plusieurs choses pour commenter cela. D'abord, évidemment que la sobriété et les changements de modèle doivent être impulsés en premier lieu dans des pays riches qui ont encore une fois ont bénéficié largement des fruits de cette dite croissance économique et qui bénéficient d'un confort qui est largement supérieur à celui que peuvent en moyenne connaître des personnes qui vivent dans les pays du Sud et dits en développement. Donc évidemment ces aspects de sobriété heureuse, je pense que c'est très important de réussir à les instiller dans l'imaginaire, notamment en France. Dans les pays qui sont en voie de développement, on a des modèles actuels qui montrent très bien la voie que peut prendre d'ailleurs, par exemple, l'agriculture française. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays africains, l'agriculture est aujourd'hui essentiellement vivrière. Elle est basée sur assez peu d'intrants. Elle est souvent agroécologique par nature, puisque on va préserver les conditions de production de manière en jouant quelque part sur des savoirs traditionnels par exemple de reforestation, de diversification des semences, un ensemble de techniques qui sont appelées par de plus en plus d'agronomes qui comprennent bien que le modèle agricole intensif, industriel, par toutes les externalités négatives qu'il peut avoir, donc les émissions de gaz à effet de serre liées aux engrais azotés, toutes les perturbations sur la santé aussi liées par exemple aux pesticides, sans parler des pollutions locales sur l'air, sur l'eau, c'est un ensemble de conséquences néfastes de l'agriculture intensive, notamment en Europe, qui font que ce modèle n'est pas durable. À l'inverse, des techniques agroécologiques permettent de, à la fois, assurer une résilience vis-à-vis des impacts du changement climatique, par exemple la sécheresse qui touche d'ailleurs maintenant fortement la France aussi, tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre et en permettant à la biodiversité d'être maintenue. Donc ça, c'est des modèles qui, de facto, sont encore dominants dans de nombreux pays en voie de développement, et dont la France notamment aurait bien raison de s'inspirer. Bon, évidemment, je ne dis pas que la transition est facile, mais c'est vraiment des caps qu'on doit absolument atteindre rapidement.
Martin Kopp, de quelques mots, parce qu'après il faut qu'on marque une pause.
Oui, c'était juste pour dire, effectivement, il y a toutes ces ressources-là techniques ou pratiques, et il y a aussi, en fait, au Sud, dit comme ça, des ressources imaginaires. Et pour partie, il y a une vraie bataille de l'imaginaire. Et pour vous donner un seul exemple, je discutais encore récemment avec un chef d'entreprise qui a travaillé longtemps en Nouvelle-Calédonie et qui expliquait la difficulté qu'ils avaient à faire comprendre l'idée qu'il puisse y avoir un titre de propriété sur de la terre. Et les gens leur disaient, en fait, vous pouvez pas me dire que cette terre vous appartient parce que tout être humain appartient à la terre. Et c'était un dialogue de sourds. Et d'ailleurs, dans notre tradition, ça rappelle le mot Adam qui désigne l'homme, qui vient de Adam à la terre. En fait, nous sommes des terreux ou des glébeux, selon la traduction de la Genèse. Donc on a des ressources là qui sont à retrouver, que ce soit sur notre nature humaine, en anthropologie, ou que ce soit sur ce que c'est le bien dans une société. Je pense en Amérique latine au buen vivir, le bien vivre, ou le summa causa, comme ils le disent en Équateur. En Afrique, des réinterprétations de la notion d'Ubuntu, je suis parce que nous sommes, donc une vision relationnelle de l'être humain face aux défis écologiques. Donc là, nous avons aussi, dans le sens inverse, je dirais presque, à apprendre aussi, à redécouvrir, à nous mettre à l'écoute des peuples autochtones.
Allez, on va marquer une petite pause dans Je pense donc que j'agis. Dans un instant, on l'accueillera Denis au 04 72 38 20 23. C'est le numéro à composer pour venir à l'antenne, le temps d'écouter une chanson de Rosaline. These memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time.
I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two. Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Elle cartonne dans le monde entier, Rosaline, avec cette chanson Snap que vous venez d'entendre sur RCF.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand et Anne Kerléau.
Et nos deux invités, Guillaume Compin, vous êtes chargé de campagne climat énergie chez Oxfam France, et Martin Kopp, vous êtes théologien. Et on va tout de suite accueillir Denis au 04 72 38 20 23. Bonjour Denis.
Bonjour Melchior, oui, j'ai entendu parler tout à l'heure de l'agriculture un petit peu, mais moi je suis agriculteur en Vendée. J'ai tout fait pour améliorer au niveau environnement. On s'est mis à faire la petite méthanisation depuis 15 ans, qui avec nos fumiers de notre élevage. Et puis on est passé à 100% herbe, on ne met pas du tout d'engrais chimiques. On est passé en bio, on a fait des légumes bio. Enfin, on fait tout pour pipier tout en local. Hein. Mais malheureusement, on voit que depuis qu'on fait ça, les subventions ont baissé par rapport à l'Europe parce qu'on ne faisait plus de culture, on n'était plus dans le conventionnel. Et on a perdu 30 à 40% de subventions. Et aujourd'hui, on a des produits qui sont payés moins cher que le conventionnel. Alors, c'est vrai que ça incite pas à faire mieux encore dans l'environnement. Quoi. J'ai des collègues du bio qui sont repartis en conventionnel parce que, par exemple, leur lait était payé plus cher en conventionnel qu'en bio. Et ça, je trouve ça dommage, quoi.
Merci. Voilà. Merci beaucoup, Denis, pour votre témoignage dans Je pense, donc j'agis. Guillaume Compin, comment le témoignage de Denis renvoie pour vous à la question de la justice climatique ?
On voit bien dans le cas de figure de Denis que c'est une situation assez aberrante, en fait, puisqu'il a mis en place tout un tas de changements dans ses pratiques agricoles et un métier, on le sait bien, qui est en plus difficile pour s'adapter au mieux aux contraintes écologiques et permettre à l'agriculture de devenir plus durable et apporter beaucoup de co-bénéfices aussi au climat, à la biodiversité. Et pour autant, il est très peu soutenu financièrement, notamment à la fois par l'État français, par l'Europe. Donc on sait que la politique agricole commune a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour nourrir massivement les Européens, mais dans un contexte où on n'avait pas non plus conscience de tous les impacts néfastes de l'agriculture agriculture dont je parlais tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a un véritable besoin mais d'une transition massive de la PAC. Or, dans la reconfiguration actuelle de la PAC, on voit que c'est pas encore le cas, qu'on continue de soutenir massivement des grandes cultures, souvent boostées aux engrais chimiques et qui ne correspondent pas du tout à ce dont on a besoin, qui sont des cultures plus réduites, le développement par exemple des légumineuses, un ensemble de solutions aussi pour préserver la biodiversité, donc des paiements verts, ce qu'on appelle les paiements verts, qui sont des contributions financières pour les agricultures qui mettent en place des solutions durables, notamment de gestion de la forêt, des haies, ce genre de pratiques, et qui restent dérisoires en fait à côté des subventions massives qui restent encore aujourd'hui pour l'agriculture conventionnelle. Et on voit bien que ça crée une situation ubuesque où des agriculteurs qui essaient de bien faire les choses pour la planète se retrouvent point liés par ce système. Donc il y a un enjeu de changer les règles du jeu, et si on prenait en compte tous les impacts même économiques sur la santé des citoyens, sur les réparations qui doivent être faites sur les écosystèmes liés à l'agriculture conventionnelle, je pense qu'on raisonnerait pas de la même manière.
Je vous propose que, face à cette notion de justice climatique qu'on essaye de définir, d'expliciter depuis le début de cette émission, on regarde comment les COP, depuis qu'elles existent, se sont saisies de cette notion et comment elles ont commencer ou pas à y répondre. On évoquait tout à l'heure la date de 2009. Guillaume Compin, on va pouvoir la développer. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, dans la COP27, Martin Kopp, cette question de la justice climatique est vraiment prise en compte et qu'un pas est franchi pour y répondre ?
Peut-être je ferai un pas en arrière pour répondre à cette question, à savoir que la COP27, elle trouve son cadre, sa place dans le cadre de l'accord de Paris et sa dynamique. Cet accord, il a été basé sur l'idée selon laquelle tout le monde doit contribuer et on va revoir où on en est tous ensemble tous les 5 ans. À la fois en termes d'atténuation, donc de baisse des émissions, mais aussi sur l'adaptation, sur les financements, etc. Et un point de passage, c'était 2020, le prochain c'est en 2025, puis 2030, etc. Donc la question de la justice climatique, elle est présente tout du long, et la COP27 aujourd'hui était liée à la COP26 l'an dernier, où on attendait notamment, dans ce point de passage-là, tous les 5 ans, le fait que les États revoient à la hausse ce qu'on appelle les contributions nationalement déterminées ou déterminées au niveau national, où chaque État, puisque ça se joue à ce niveau-là, au niveau de la nation, met sur le papier ses engagements et les trajectoires qu'il entend accomplir. Et alors, on se met tous ensemble dans la COP, on regarde l'ensemble des chiffres et on regarde si ensemble on y est ou pas. Donc il y a un va-et-vient entre le niveau national étatique et le niveau collectif, et dans la COP finalement on attend en général la majorité des décisions avant la COP. On sait en arrivant à la COP là qu'il y avait un peu plus de 20 pays qui avaient revu à la hausse leur contribution nationalement déterminée, mais pour les autres on n'en attend pas beaucoup d'annonces au moment de la COP même, parce que ces revues, elles doivent passer dans les parlements, elles doivent être votées, enfin il y a tout un processus qui se vit au fait à l'échelle de la nation. Donc quelque part, j'aurais envie de dire que c'est un moment important pour partie, c'est un moment où il y a de la décision bien sûr, mais c'est aussi un moment symbolique où on fait les comptes, mais les choses se jouent au niveau national et on est post-accord de Paris vraiment dans ce va-et-vient et dans l'importance du niveau national. C'est pour ça, même si on continue d'être présent bien sûr par exemple en termes d'acteurs chrétiens dans les conférences climat, beaucoup de notre travail s'est déplacé vers le niveau national et du plaidoyer à cet endroit-là. Pour le moment, la COP27 est en train d'échouer sur cet enjeu-là. Enfin, si on en juge par la première semaine, et notamment le fait que, par exemple, sur les pertes et dommages, sur lesquels on reviendra probablement vers la fin de l'émission, les États-Unis ont clairement dit déjà, enfin, John Kerry a dit, dans la mesure où on veut pas ouvrir la porte à ce que éventuellement notre pays soit attaqué en justice pour dette climatique et soit obligé à payer et des sommes faramineuses, pour nous c'est non négociable, c'est niette. Et donc on est obligé de se retrouver à travailler avec des bouts de ficelle, discuter des assurances, discuter de systèmes d'alerte précoce, discuter de financements bilatéraux ou multilatéraux, enfin bref, on est pour le moment en situation, on va dire, de moindre mal pour ce qui est de la trajectoire en température, mais clairement de faillite face à la question de la justice. Et c'est une chose que j'aurais souhaité dire précédemment, c'est qu'on discute de justice, mais en réalité, on est en situation d'injustice climatique et malheureusement, bien malheureusement, comme il est tard et très tard, et pour certaines choses déjà trop tard, on va être dans la limitation de l'injustice climatique, plus que la capacité à obtenir justice au sens propre et plein du terme.
Guillaume Compin, sur la question de la fameuse enveloppe de 100 milliards que vous évoquiez tout à l'heure, d'abord peut-être rappeler ce que c'est cette enveloppe de 100 milliards et puis aussi où on en est. Elle avait donc été décidée en 2009.
C'est ça, exactement. Donc en 2009, à la COP à Copenhague, les États s'étaient engagés d'ici 2020 à ce que les pays riches versent au moins 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud pour les aider, les accompagner dans leur transition écologique et dans l'adaptation au changement climatique. En 2020, d'après les chiffres de l'OCDE, le montant n'était toujours pas atteint après plus de 11 ans. On était sur un montant de l'ordre de 83 milliards de dollars, donc pas très loin, mais le compte n'y est toujours pas. Et surtout, une majorité de ces financements, en réalité, sont fournis sous forme de prêts aux États, que ce soit bilatéraux, multilatéraux, via la Banque mondiale. Je rentre pas dans les détails. Donc ce qui se passe dans les faits, c'est que une grande partie de ce soutien financier est fournie sous forme d'endettement que les pays vont devoir rembourser, parfois à des taux, ce qu'on dit concessionnels, c'est-à-dire avec des intérêts qui sont assez faibles, mais parfois à des taux de marché tout à fait classiques. Donc ça nous paraît, notamment chez Oxfam, complètement scandaleux, en fait, qu'une grande partie de ces financements climat soient fournis sous forme de prêts envers des pays qui, dans certains cas, sont d'ailleurs déjà très fortement endettés. Et c'est encore plus le cas aujourd'hui avec la pandémie de Covid qui a largement fragilisé des pays. Je crois qu'il y a une cinquantaine de pays qui sont au bord de la faillite actuellement. Donc on est vraiment dans une situation très grave. Et en plus de ça, ces financements climat sont fournis essentiellement pour l'atténuation, donc ce qui est une bonne chose. Mais dans les différentes négociations climatiques, notamment l'accord de Paris, il est explicité qu'on doit chercher dans ces financements climat solidaires un équilibre entre l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.
Peut-être là-dessus d'ailleurs une précision, parce que c'est une terminologie que les gens qui connaissent ces questions-là maîtrisent, mais peut-être pas tout le monde. Donc l'atténuation, ça concerne la poursuite de la réduction des gaz à effet de serre, et l'adaptation, c'est qu'est-ce qu'on met en œuvre pour s'adapter aux effets du changement climatique. Martin Kopp, vous souhaitiez réagir ?
Oui, d'ailleurs, Oxfam propose un calcul alternatif de la réalité des financements climat, et on a sur la problématique, enfin, et je peux dire tout de suite, hein, que selon cette estimation, ça serait bien que l'OCDE dise 83 milliards, en réalité, selon un autre mode de calcul, c'est en fait seulement un tiers de ça, on serait entre 21 et 24,5 milliards, parce qu'il y a des grands enjeux méthodologiques, et bien souvent, c'est sur ça que les choses achoppent qu'il y a des disputes ou des discussions forte au sein de la COP, notamment parce que l'accord de Paris ou d'autres textes posent des principes mais ne définissent pas la manière de les comprendre et de comptabiliser. Qu'est-ce qui est de la finance climat, en fait ? Sur les 100 milliards, qu'est-ce qu'on compte comme faisant partie ou faisant pas partie ? Ça n'a pas été défini dans le cadre de l'accord, et du coup, l'OCDE, rassemblant d'ailleurs un certain nombre de pays qui ont éventuellement un certain intérêt à être vus plutôt que comme ci que comme ça, choisit des manières de compter qui leur sont favorables. Et si on prend des manières de compter un peu plus strictes, plus rigoureuses et à certains égards dont on considérer qu'elles sont plus justes, en fait, vous êtes en fait dans une situation absolument scandaleuse, limite de mensonge méthodologique. Pour vous donner un seul exemple, on va compter 100% d'un financement sur un projet parce qu'on considère qu'il est majoritairement climatique, quand en réalité, en fait, ce n'est qu'une partie. Ou alors, quand on a un projet dont on sait qu'il est seulement pour partie touchant au climat, on va compter un pourcentage unique de 40 ou 50% de la somme sur le climat, alors qu'il y a des projets qui contribue pas du tout à l'atténuation ou à l'adaptation. Donc si on va regarder dans le détail, on a même un enjeu de générosité là, méthodologique, qui fait que ce financement, il n'est pas présent, et les gens ne sont pas dupes dans ces lieux de négociation, et c'est vraiment, ça confine limite à la manolette et à la tromperie sur ces enjeux-là, et on a besoin, et c'est des situations compliquées, parce qu'on est en contexte d'inflation, on est en contexte risques de tensions sur les finances, etc. Mais il faut rappeler, à l'inverse, l'ensemble des sommes qui vont au soutien aux énergies fossiles au niveau mondial, les profits immenses faits par ces entreprises-là et les possibilités qu'il y aurait en taxant, en trouvant des nouveaux lieux de financement pour le climat qui sont à ce jour peut-être pour partie tabou.
Alors, c'est compliqué, il nous reste 10 minutes, on a encore des tas de choses à dire, une auditrice qui attend en ligne. Guillaume Compin, peut-être d'un mot pour finir sur cette question, sur cette enveloppe de 200 milliards. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est attendu, Oxfam, vous par exemple, qu'est-ce que vous demandez en termes de décision de la COP27 dans l'accord final et qu'est-ce qu'on peut espérer, vraiment de manière synthétique?
En matière de financement climat, donc un rehaussement de l'ambition, comme je disais, l'ONU estime que les besoins en 2030 par an dans les pays en développement, c'est par exemple 300 milliards de dollars pour l'adaptation. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur 30 milliards. Donc déjà, c'est doubler les financements climat d'ici 2025. C'est un engagement qui a été pris l'année dernière pour l'adaptation. De manière générale, revoir largement les ordres de grandeur en matière de financement climat, puisque, comme je le disais tout à l'heure, en 2030, on est plutôt sur un besoin de l'ordre de 1000 milliards de dollars de financement climat pour les pays en développement.
Alors si on parle, donc on a évoqué l'atténuation, l'adaptation, il y a un troisième gros enjeu qui est celui de ce qu'on appelle les pertes et préjudices. Là aussi, c'est une terminologie familière pour ceux qui sont familiers de ces questions-là, mais dites-nous d'abord, peut-être rappelez-nous de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette notion de pertes et dommages ou pertes et préjudices selon la manière dont on traduit?
Donc les pertes et dommages, effectivement, donc c'est un vocabulaire dans les discussions de la COP, ça désigne à la fois les conséquences irréversibles ou qu'on n'a pas pu empêcher du changement climatique, à la fois des catastrophes qui sont spontanées à court terme, par exemple des cyclones, des inondations, ce genre de phénomènes, et puis ce qu'on appelle des phénomènes à occurrence lente, ou en tout cas des dérèglements climatiques qui vont se faire de manière progressive, par exemple la montée des eaux ou des sécheresse ou la désertification qui vont progresser de manière lente mais continue et certaine et affecter progressivement des millions de personnes.
Donc c'est des choses qui sont déjà en cours, quoi. Ça a déjà commencé, c'est pas à venir seulement.
Ah non, c'est déjà en cours. Les pertes et dommages, c'est une réalité. Il y a des millions de personnes qui sont affectées. On estime, d'ailleurs, Oxfam a soutenu un rapport de la Loss and Damage Collaboration, je ne rentre pas dans les détails, qui explique que depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis 30 ans que les pays les plus vulnérables demandent des financements dédiés pour les pertes et dommages, chaque année, dans les pays en développement, c'est environ 190 millions de personnes qui sont victimes de catastrophes climatiques. On voit bien que c'est quelque chose qui est une réalité dans de nombreux pays depuis plusieurs décennies.
Là, on peut peut-être donner quelques exemples. On a en tête, évidemment, par exemple, les inondations au Bangladesh ou au Pakistan. On a en tête aussi les méga-feux, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Amazonie. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, peut-être, de choses moins spectaculaires et plus méconnues que vous pourriez nous donner l'un et l'autre? Oui, Guillaume, je comprends pas.
Ouais, peut-être. Non, mais comme j'en parlais tout à l'heure, par exemple, la sécheresse dans la Corne de l'Afrique, c'est un phénomène à occurrence lente, typiquement, qui se produit depuis des années. Les sécheresses ont déjà existé, effectivement, par le passé, mais leur intensité, leur fréquence augmente de plus en plus. Dans la Corne de l'Afrique, on est sur une sécheresse qui dure depuis 3 ou 4 ans, qui a des conséquences terribles sur la productivité des sols, l'accès à l'eau, évidemment, et en plus de ça, à l'origine de conflits terriens et donc notamment entre agriculteurs, qui amplifient la catastrophe humaine et des milliers de personnes sont contraintes de se déplacer ou de migrer dans d'autres pays. Des personnes dans certaines régions de l'Éthiopie et de la Somalie font face à des situations de famine, donc le pire état d'insécurité alimentaire où leur santé et même leur vie est menacée à court terme par manque d'accès à une alimentation suffisante. Donc on voit bien que ce genre d'événements sont directement issus du changement climatique et impliquent des réponses fortes.
Martin Kopp, un autre exemple peut-être ?
Oui, en fait, c'était un autre exemple, mais peut-être un autre registre. Et c'est très juste de mettre en avant tous ces éléments-là et les pertes et dommages tout ceci à des choses immatérielles, des éléments d'identité, de culture. Si ça fait très très longtemps que dans les églises, on est engagé sur le plaidoyer, c'est notamment parce que les petits États insulaires, dont beaucoup sont protestants, Tuvalu, qu'on mentionne souvent, c'est 10 000 habitants, 90% c'est des protestants. Ils nous interpellent depuis longtemps en disant, en fait, nous, dans la perte de notre île, alors il y a bien sûr le fait matériel, mais il y a aussi le fait qu'on va perdre notre insularité. Si on se retrouve immigré quelque part, c'est toute une culture, c'est tout un rapport à un certain écosystème, c'est le deuil qui va falloir faire de cela, c'est la perte d'une langue, c'est la perte d'une histoire. L'intergénérationnel, c'est aussi ça dans la transmission des personnes des îles qui seront avec des enfants plus des îles. Enfin voilà, on a quelque chose qui touche à l'identité et qui parfois peut toucher les cœurs bien plus que les chiffres au loin et dans le futur. C'est toujours la difficulté du changement climatique. Et si je ramène ça à la maison, pardon pour le caractère peut-être incommensurable de l'exemple que je vais donner, mais moi j'habite en Alsace près des Vosges du Nord. Les projections climatiques, c'est que la forêt que je connais, dans laquelle j'ai grandi, où m'emmenait mon grand-père à 5h du matin pour voir les chevreuils, eh bien elle va disparaître quasiment intégralement, et des hêtraies dans les Vosges à la fin du siècle, vous oubliez, parce que cette essence-là ne survit pas au changement climatique. Et il y a une tristesse, il y a un deuil vis-à-vis de ça. Et encore une fois, pardon pour cet exemple qui est sans commune mesure avec être réfugié ou perdre, en Alsace, et j'essaie vraiment là de dire ça parce que pour le ramener à la réalité d'une Française ou d'un Français, bien d'ores et déjà nos vins deviennent plus alcoolisés, on va plus être capable de faire de vin blanc en Alsace, donc on perd toute une partie de notre culture, et ça parfois c'est la nature humaine, ça touche plus encore de se dire mais en fait ce qui fait un petit peu qui nous sommes est mis en question aussi, et est-ce que j'ai envie de sauvegarder non seulement la capacité d'habitabilité de la terre d'un point de vue technique et existentiel, mais aussi au-delà de ça comment je me comprends sur cette planète et je me définis, et j'ai envie de transmettre ce que j'aime et qui est cher aux générations qui viennent.
Et là, on voit bien qu'il n'est pas question que de chiffres, mais quand même, je vois Melchior qui me fait les gros yeux qu'il y a une auditrice qui attend. Guillaume Compas, est-ce que vous pouvez en une phrase nous dire qu'est-ce qui est attendu en termes peut-être chiffrés pour le coup sur cette question des pertes et dommages de la COP et qu'est-ce qui est espéré raisonnablement ?
Ce qui est espéré raisonnablement, c'est la création d'un fonds dans le cadre des COP des Nations Unies dédié aux pertes et dommages. C'est quelque chose sur lequel les pays riches ont botté en touche depuis 30 ans. Et même si la France, par exemple, s'est joint à une initiative qui s'appelle le bouclier mondial du G7, en réalité, ce bouclier fonctionne sur un mécanisme notamment assurantiel qui nous paraît très problématique. Et pour nous, ce fonds dédié aux pertes et dommages, on n'a pas un chiffre exact, mais en tout cas, c'est des milliards de dollars, doit être créé. De toute urgence.
On va suivre ça. Melchior.
Allez, on va accueillir Catherine qui patiente au 04 72 38 20 23. Désolée Catherine, bonjour.
Non, bonjour à tous. Vous avez encore une émission fabuleuse et je suis ravie de pouvoir apporter ma modeste contribution maintenant, même si c'est un peu décalé par rapport à ce que viennent de dire vos invités, puisque c'était tout à l'heure. Mais en fait, moi j'ai été interpellée parce que hier j'ai écouté une émission sur une autre radio qui parlait des ultra riches. Et donc on a un ultra riche en France qui s'appelle Monsieur Niel, qui a en philanthropie, a ouvert une école d'agriculture qui s'appelle Hectare en 2021. Et cette école d'agriculture, elle vise à former gratuitement, c'est assez exceptionnel, gratuitement des agriculteurs, des entrepreneurs,
oui.
Des entrepreneurs, des businessmen d'agriculture. Alors moi je m'interroge sur la vocation et elle a été très controversée parce que bien sûr en France on a d'autres écoles d'agriculture qui forment aussi, mais qui ne sont pas gratuites. Voilà.
Donc
et moi je suis interpellée par l'argent que met cet homme, sûrement dans de bonnes intentions, mais dans une émission de radio que j'ai écoutée hier, on parlait aussi de le fait d'avoir que les ultra riches cherchent une vitrine.
Oui, c'est une forme de greenwashing et c'est ce qu'on entend à travers votre témoignage. Merci beaucoup, Catherine. Je me permets de vous couper puisqu'on arrive vraiment à la fin de cette première partie. Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, je précise. Martin Kopp, je vous demande de faire court peut-être pour répondre à Catherine sur ces ultra riches et sur cette vitrine. C'est intéressant d'ailleurs cette notion de vitrine.
Oui, alors je connais pas le projet concerné. Je sais pas si Guillaume pourra dire un mot là-dessus. Du coup, je rebondis d'une autre manière, c'est-à-dire effectivement, lorsqu'on discute COP, on discute beaucoup de nations, on discute pays, et ça cache la granulosité qui, si on entre par d'autres portes d'entrée, en réfléchissant à la contribution des individus ou des catégories sociales. Rappelons qu'à l'échelle mondiale, les 10% des personnes les plus riches, on se libère là de regarder quel est le pays, les 10% des plus riches aujourd'hui émettent plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre, quand inversement, les 50% les plus pauvres parmi l'humanité émettent moins de 7% des gaz à effet de serre. Donc on a un vrai enjeu, et quand vous regardez même en France, dans notre population, on a des entre le décile le plus riche et puis la majorité des gens qui sont autour du SMIC, on peut avoir une empreinte carbone qui fait x3, x4. Donc il y a un vrai enjeu à cet endroit-là, et de justice, parce que du coup monsieur Nil, il a de l'argent, il décide où est-ce qu'il le met, mais collectivement, démocratiquement, il faut qu'on puisse faire ses choix ensemble.
Guillaume Compa, vraiment en 20 secondes.
Non mais juste un chiffre, il y a un rapport Oxfam sorti la semaine dernière à échelle mondiale qui montre que 125 milliardaires, à travers leurs investissements dans des entreprises d'énergie fossile notamment, émettent autant que l'empreinte carbone territoriale de la France.
Merci pour l'effort de concision, merci beaucoup.
Merci à tous les deux, Martin Kopp et Guillaume Compin. Anne, vous restez avec moi pour la seconde partie. Avec grand plaisir, je vous accueille pour la seconde partie de Je pense donc j'agis. On continue de parler de la COP27 qui se déroule en ce moment à Sharm el-Cheikh en Égypte. On va aborder le rôle des États dans la gouvernance climatique et du modèle de négociation de la Convention. Toujours avec vos témoignages au 04 72 38 20 23 ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Je vous dis à tout de suite.